I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur So Sweet Planet, petite gueule de son vrai nom, Manon Gilbert. C'est le grand coup de cœur musique sur So Sweet Planet cette semaine. Donc, petite gueule, bonjour.
Bonjour.
Quel talent! Tu es autrice, compositrice, musicienne, chanteuse, danseuse et comédienne. Tu as déjà fait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses dans le théâtre et la musique. Mais le confinement a eu un effet explosif et révélateur sur toi. Tu as déboulé sur le net juste après le confinement avec une série de titres et de clips faits maison. Dans un genre que, si j'ai bien compris, tu n'avais pas encore exploré, entre le rap et la chanson, dont un titre qui est arrivé sur le net qui s'intitule « Ça m'énerve » et qui a cumulé très vite plus de 100 000 vues, donc bravo, puisque c'est toujours un exploit quand même. Et il faut dire que si tu avais fait beaucoup de choses avant, là c'était une première fois. Qu'est-ce qui était une première fois ? Petite gueule.
Merci pour cette belle présentation déjà. C'est vrai que c'était la première fois que j'écrivais, déjà principalement, que j'écrivais vraiment, que j'osais écrire et que je découvrais que c'était par la musique que j'osais écrire et que je me lançais justement dans le rap qui était une envie depuis bien longtemps. Mais que j'osais pas trop assumer, puis j'osais pas non plus prendre le temps de le faire parce que j'étais éparpillée dans 1000 projets passionnants, et du coup c'est un peu la première fois que c'est mon propre projet, que je fais ce que je veux et que cette liberté là finalement m'a vachement épanouie. Et donc voilà, tout ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau. Et le rap, pour moi, j'avais l'impression que c'était vraiment l'endroit idéal, en fait, de rencontre entre la musique et le théâtre, qui sont vraiment mes deux passions. Et qu'il y avait un truc à cet endroit-là où j'allais pouvoir exprimer quelque chose qui me correspond vraiment, quoi.
Moi, j'ai été étonnée de voir que, en fait, c'était la première fois que tu te lançais dans ce style-là. Parce que on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie, en fait. Là, on avait l'impression que ça avait mûri, et que d'un seul coup, tout oui, sortait de façon très naturelle.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment le fruit de tout un cheminement, comme tu dis. Et en fait, j'ai quand même découvert ça avant, par plusieurs expériences. Déjà, j'ai fait un autre projet de musique qui s'appelle L'oreille fougueuse de la voisine, dans lequel j'ai co-signé les musiques et où j'interprète. Mais c'est pas moi qui ai écrit, c'est l'auteur, il s'appelle Philippe Patois. Et on a fait ce disque à trois avec mon père, Philippe et moi. Et j'ai découvert dans ce projet-là que déjà, la chanson... Et puis c'était un parler chanté aussi, déjà c'était pas vraiment du rap, mais ça commençait à s'y apparenter, et j'ai senti vraiment que je touchais un endroit qui me parlait. Donc en fait ça a commencé plutôt là. Ça a commencé aussi avec je joue le Cid de Corneille avec la compagnie du Grenier de Babouchka, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. Et avant de jouer, on faisait nos alexandrins en rap pour s'entraîner, pour faire des italiennes, etc. Donc, il y avait ce jeu rythmique, comme ça, avec les mots. Et puis, un autre spectacle que j'ai fait avec les Épinoirs, qui s'appelle Allons Enfants, qu'on espère reprendre dès que tout ce contexte sera terminé, où aussi, c'est un spectacle très musical et où les mots sont vraiment nourris par la musique et portés par la musique. Et voilà, ça fait quand même quelques années que je me rends compte que vraiment cette alliance me parle, quoi. Mais je n'osais pas écrire moi, et dire ce que moi j'avais envie d'exprimer, et c'est ça qui est vraiment nouveau, quoi.
Et alors ce titre, ça m'énerve, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment il est sorti, parce qu'il est, c'est tellement bien balancé, quoi. Je crois que ça vient aussi du coup du contexte, de tout ça, ça on s'est tous reconnus dedans, et comme tu le dis, avec une bonne énergie, pas une énergie justement d'agressivité oui. négative, une bonne énergie qui fait qu'on regarde et on a forcément le sourire, quoi. C'est super bon et c'est super drôle, parce que t'as une autodérision tout le temps qui fait que c'est à la fois sérieux, en même temps ça se prend pas au sérieux, ça rend le truc très sympathique. Comment c'est né ce titre? Tu peux nous en parler un peu?
Oui, bien sûr. Bah, merci encore. Hein. Ça fait plaisir tout ce que tu dis. ben ouais, en fait, c'était pas prédéfini au départ. J'ai fait la musique d'abord. Je fais toujours comme ça. D'abord, je fais la musique et ensuite, j'écris les textes sur la musique et je sais pas à l'avance de quoi je vais parler. Et là, en fait, j'ai commencé à faire une liste de tout ce qui m'énervait. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit la chanson, il y a d'autres trucs où je me dis « Ah, il y a ça que j'aurais pu dire aussi. » J'ai trouvé d'autres...
Donc, en concert, quand voilà. On va enfin retrouver les concerts, ça fera 10 minutes, quoi.
Voilà, c'est ça. Il y aura peut-être une intro. Et du coup, j'ai commencé à faire cette liste de tout ce qui m'énervait. Et puis, il manquait quelque chose dans la chanson. Et en fait, c'est un jour... on se baladait avec ma meilleure amie et mon copain et on est allé au parc des Guilans à Montreuil. Et en fait, je me suis dit, ah, mais oui, je pourrais parler de Montreuil et de cette ville et on pourrait tourner dans plein d'endroits de Montreuil. Et en fait, là, il y a eu un mélange de tout ça qui... Parce qu'en fait, je trouvais que la légèreté qu'il y avait dans la chanson était super, mais que ça manquait un peu de la profondeur que je voulais garder de tout ce que j'avais fait avant aussi. Du coup, voilà, j'ai eu envie de rajouter cette petite pointe de nostalgie, quoi, en plus. Et du coup, je trouvais que là, la chanson, elle racontait vraiment un truc un peu complet, entre guillemets, dans l'instant, quoi.
Et le clip est super aussi, devant le...
Oui, avec les devant le conservatoire, ouais. Mais ça, on a fait tous les clips avec mon copain, Nicolas Guillemot, il s'appelle. Et c'est vrai qu'au début, ça a commencé vraiment au téléphone portable. Enfin, celui-là aussi, il est au téléphone portable. Mais bon, on s'est de plus en plus pris au jeu du montage. Et puis là, on était déconfinés, donc on était dehors et on pouvait aller partout. Donc il y avait cette liberté aussi.
Oui, mais les clips, on va en reparler parce que là aussi, c'est vraiment très créatif. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de ton parcours, de comment la musique et le théâtre sont arrivés dans ta vie? Parce que je crois que tu étais en fait sur les planches très jeune, si
oui.
mes sources sont bonnes.
Oui, complètement. Ouais. Bah moi j'ai ma mère qui est kiné mais qui était comédienne aussi, mon père qui est musicien. Donc c'est vrai que j'ai déjà à la base grandi dans un milieu très artistique et puis j'ai très vite fait des cours de théâtre, pris des cours de piano. J'ai toujours su que j'en sais rien si j'ai toujours su, mais vers l'adolescence, je savais que je voulais être comédienne et j'aimais la musique, mais j'en faisais un petit peu. J'allais à mon cours de musique. J'ai eu un parcours de musique un peu atypique parce que j'ai été au conservatoire. Enfin non, d'abord j'étais à la MJC du Montmélis à Créteil. Après j'ai été au conservatoire de Montreuil, mais je suis tombée sur une prof horrible qui m'a un peu traumatisée. Donc je suis partie, mais mon père à qui j'ai dit je veux arrêter le piano, il m'a dit mais non, t'as peut-être juste envie d'arrêter avec cette prof là, donc il a été malin. Et du coup je suis allée à la maison populaire avec une autre professeure, Nathalie Bougie, à Montreuil. C'était vraiment super ces cours, on était deux élèves et voilà, et on papotait beaucoup aussi et on faisait du piano. Alors c'était super parce que du coup c'était vraiment redevenu un plaisir. Et puis après j'ai fait mes études de théâtre à l'école Claude Mathieu. Après le bac, j'ai fait un bac théâtre. Et après, j'ai su que je voulais faire une école de théâtre. J'ai fait cette école fantastique. Et en parallèle de ça, je me suis pris de passion pour la musique cubaine. Donc, je faisais du piano dans des groupes de salsa et tout ça. Je suis même partie un petit peu à Cuba. Voilà, ça m'a vraiment passionnée. Et puis...
T'es partie étudier ou
oui, un peu le piano, ouais. Un petit peu le piano, les percussions cubaines. Je jouais là-bas dans des bars dans la rue, la clave, des petites percussions comme ça. J'allais voir plein de concerts.
Mais avec voilà. Un groupe ou toute seule?
Non, je suis partie toute seule. Je suis partie un mois toute seule. C'était mon premier voyage où je partais toute seule avec mon sac à dos à 19 ans. J'avais 19 ans. Et c'était vraiment une expérience assez incroyable. Et après, je me suis dit, tiens, faudrait quand même que que tu refasses de la musique classique et un peu de technique, quoi. Donc, un jour, je suis retournée un peu sur un coup de tête au conservatoire et puis et j'ai demandé à l'accueil s'il y avait un prof de piano. Et ils m'ont dit, oui, il y en a deux. Il y a celle que j'avais eue quand j'étais petite qui m'avait traumatisée et puis il y a un autre.
Oui.
Donc, je suis évidemment allée voir l'autre. Et là, vraiment, ça a été 4 années passionnantes où j'ai fait du piano. J'ai passé mon DEM de piano classique. Je faisais 8 heures de piano par jour. C'était vraiment mon obsession. J'étais intermittente du spectacle. Je travaillais comme comédienne et je faisais du piano toute la journée, quoi. Et du coup, je pouvais comme ça allier, toujours faire les deux, quoi. Et le théâtre, je faisais des pièces où j'étais aussi pianiste, où j'accompagnais au piano, je composais, j'étais comédienne. Il y a toujours eu les deux qui se sont suivis, quoi. Mais c'est vraiment très récent que du coup la chanson et la musique prend de plus en plus de place professionnellement dans ma vie et ça j'avais pas imaginé ça quoi, ça m'a un peu surprise quoi. Et puis je vais toujours continuer le théâtre et j'aime
et
toujours
autant. Et le rap
autant,
alors là-dedans
et parce le
que
rap
apparemment il y avait quand même pas mal d'influence aussi.
Oui oui, j'écoute
dans ce style musical.
Oui oui. J'écoute beaucoup de rap, mon frère m'a beaucoup fait écouter, on a fait beaucoup écouter aussi du dancehall, etc. Et le rap français, où du coup, je me suis passionnée par des rappeurs, par Dos Kawa, par exemple, ou même du rap américain, Busta Rhymes, où j'ai pas du tout la prétention de faire la même chose, d'ailleurs, hein, je sais que c'est très différent ce que je fais, que c'est un petit peu particulier, mais j'aimais bien justement ce mélange un peu particulier, quoi, que... Parce que, pour moi, Brassens et Barbara, c'est aussi du rap, quoi. Enfin, c'est les rappeurs adorent Jacques Brel et Barbara et Reggiani parce que c'est des poètes en fait. Et les rappeurs, c'est de la poésie aussi, quoi. Avec ce truc rythmique et cette niaque, cette rage, cette énergie qui dans laquelle je me retrouve vraiment, qui est avec le rap, un truc, une puissance comme ça. Une petite violence intérieure qui a besoin de sortir, en fait, quoi. Et le rap, moi, ça, j'aime ça là-dedans, quoi. Dans la musique aussi.
Et puis le son, parce qu'il y a,
oui.
Toi, il y a un gros travail de son urbain. C'est vraiment très bien. Le piano classique apporte souvent une petite touche un peu mélancolique, là, dans tes titres.
Oui.
Que tu intègres super bien au milieu de sons de musique urbaine, en fait.
Ah, merci. Ouais, ouais. C'est ça, j'ai essayé en effet. En fait, comme je fais les musiques... je fais vraiment ce que j'aime dans la musique. Et en fait, comme j'aime plein de trucs, peut-être que du coup, ça se ressent parce que c'est plein d'influences, quoi.
Mais tu fais tous tes sons ?
Non, en fait, j'ai un peu triché au départ parce que je suis allée sur un site de téléchargement gratuit où on pouvait télécharger des boucles, notamment des batteries principalement, parce que, en fait, moi, j'avais pas... Moi, j'ai mon logiciel, Logic Pro, où je compose là-dessus, mais j'avais pas les banques de sons que je voulais pour que ça sonne comme je voulais. Et comme c'était ça mon moteur pour écrire, et que mon objectif, c'était surtout d'écrire, du coup, au départ, la musique, j'ai pris des boucles qui me plaisaient, qui allaient m'inspirer. Et puis, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire tout. Par exemple, Ça m'énerve, Moi je crois aux fées, Dentelle. C'est vraiment moi là qui ai fait les musiques. Mais les batteries, j'ai pioché dans des banques de sons où je savais que moi, à la maison, là comme ça, avec les moyens du bord, je pouvais pas bidouiller un truc...
Alors, je vais encore te faire une petite salve de compliments. Donc, j'ai découvert par le net ce que tu faisais. J'avais déjà eu, je ne sais plus si c'est toi qui me l'avais envoyé, mais je me souviens avoir partagé le premier clip de Ça m'énerve.
Ah oui, au mois de juin dernier, ouais, ouais.
Voilà. Et je m'étais dit, mais d'où elle sort ? Qui fait ça ? Puis à l'époque, j'avais pas trouvé beaucoup plus d'infos. Et là, en fait, quand j'ai vu tous les titres et les clips, je dois dire que je suis restée sidérée par ton énergie, une bonne énergie, une énergie qui fait du bien. J'ai été sidérée aussi par ta créativité, ta spontanéité, ton humour, tes multiples talents et le fait que tu navigues joyeusement entre, j'espère que tu le prendras bien, mais entre Arletty et les musiques urbaines.
Ah super, ah, j'adore.
Ça se télescope, il y a des époques comme ça qui se télescopent et je trouve ça super réussi. Entre la Madeleine de Proust et Dumbo l'éléphant, entre un concerto pour triangle avec orchestre, avec un vrai orchestre, on va en reparler, et les rues de Montreuil du 21e siècle, hein, puisque tu défends ta ville, entre de solides formations dans divers domaines artistiques et une farouche liberté, entre la musique classique, le piano, le cinéma, les musiques sud-américaines, une créativité aussi au niveau de l'image, avec à la fois une urgence d'exprimer tout ça et une autodérision aussi désarmante que décapante. Et découvrir tout cet univers en pleine période de pandémie, j'ai eu l'impression d'un petit diablotin qui sortait de sa boîte. Et donc là, on comprend un peu mieux maintenant tout ton cheminement. Mais est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes influences? Quelles ont été tes grandes influences en musique, en cinéma et peut-être chez les street artists, dans le hip-hop, dans tout ça? Est-ce que tu peux nous donner quelques noms, quelques références, des grandes couleurs qui ont pu faire ce qu'est ton univers aujourd'hui?
Ouais, je vais essayer. Alors, merci encore hein, pour tout ça. Ça fait du bien. c'est vrai que j'ai des influences, comme je te disais tout à l'heure, musicalement, il y a vraiment Brassens, Reggiani, Edith Piaf. Barbara. Barbara, j'ai même fait une reprise, mais j'ai pas eu les droits. Donc, je pourrais pas la faire, mais c'était sympa de, ça m'a plu quand même de faire ça. Et puis des choses plus modernes aussi, hein. Moi j'adore Babix, j'adore Camélia Jordana, j'adore M, Vanessa Paradis, tellement de choses en fait. Lorraine Hill, moi j'adore Lorraine Hill, je suis fan de Lorraine Hill, j'aurais adoré avoir une voix comme ça, ou comme Stevie Wonder, ou comme des gens comme ça, j'aurais adoré avoir une voix soul comme ça, mais ça c'est pas trop la même chose. En chanson à texte, aussi les pianistes, Jeanne Chéral qui chante au piano et qui parle, il y a aussi Juliette,
j'ai vu plusieurs fois aussi sur scène. Je l'avais même interviewé. Il y a très longtemps.
Ah ouais, ouais.
Toute une personnalité. Hein.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, elle est incroyable. Justement, j'avais beaucoup regardé de concerts à elle par rapport aux interchansons dans les concerts parce que je trouvais ça, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Il y avait un équilibre sympa de pas dire des trucs trop anecdotiques et en même temps de pas parler trois plombes. J'aimais bien ce qu'elle faisait. Ce qu'elle fait. Et puis sinon, c'est vrai que j'ai des influences aussi très cinématographiques. Moi, je disais qu'il y avait un petit côté Amélie Poulain du rap français, parce que je trouve qu'en effet, il y a ce petit côté, cette gouaille des rues, et puis avec la poésie, l'enfance, la féerie qu'il peut y avoir, que j'aime bien.
L'innocence aussi.
Exactement, dans Amélie Poulain ou dans La fille sur le pont de Patrice Lecomte, sur la chance et les relations humaines, les rencontres, etc. Donc voilà, des auteurs aussi. Des auteurs, je pense que Philippe Patois m'a inspiré, un artiste aussi qui s'appelle Gabor m'a beaucoup inspiré dans l'écriture, je pense, inconsciemment. Voilà, moi, même La vie devant soi, où il y a ce truc un peu poétique des rues, quoi, qui a dû m'influencer avec le temps.
Oui, je t'aurais bien vu dans Les Enfants du Paradis ou dans...
Moi, j'adore les vieux films italiens. J'adore tous les films italiens et aussi les films... d'Almodovar, les films de... comment il s'appelle, Bergman, sur les relations humaines, de Woody Allen. Après, c'est discutable, l'humain, mais ce qu'il raconte dans ses films ou dans certains films qu'il a racontés avant, moi, ça me passionne.
Et sur la musique, donc, au niveau des sons, quels ont été tes... Est-ce que tu as des influences ou...
Oui, c'est vrai qu'il y en a tellement. J'adore Kerry James et la musique qu'il fait. Après, des fois, j'ai écouté quand j'étais adolescente, j'écoutais Diams et j'aimais bien sa façon de rapper et de dire les choses un peu écorchées comme ça. Je trouvais qu'il y avait un truc qui me parlait beaucoup. Et après, sinon, il y a donc Douze Kawa et les musiques de Douze Kawa, j'adore. Paco, Swiftgad, Lautrec, Billy Brelock, c'est une rappeuse qui est super aussi. fauve. Mais après, des fois, j'aime pas tout. J'aime une chanson qui va me parler particulièrement ou une musique.
Oui.
Voilà, il y a des beatmakers, Many Days, Greenfinch. Bah là, je vais peut-être faire un morceau où c'est lui qui fait l'instru, justement. Comment il s'appelle aussi, Jim, il fait des instrus sublimes. Et des fois, c'est des morceaux, je vais les mettre 40 fois en boucle, quoi. Et puis, j'adore aussi Gaël Faye. Il a fait des musiques, il y a une instru qui s'appelle Balade brésilienne. J'adore ce morceau. Cassez-moi Palek aussi, c'est Anis. Anis aussi, j'ai beaucoup écouté Anis. Bon, il y a tellement de trucs, ça part dans tous les sens, là.
Et ben oui, mais justement, c'est ça, on voit la richesse, quoi, de tes influences.
Oui.
Et alors, côté scène, donc là, on a compris qu'effectivement, là, tu avais pas mal bourlingué aussi. En tant que petite gueule, donc, sur ce projet-là, alors évidemment, là, on est dans une période qui est vraiment compliquée pour commencer. Mais tu as quand même réussi à faire des petites prestations dans la rue. J'ai vu
oui.
sur les vidéos, parce qu'on peut voir plein de vidéos sur ta page Facebook, et aussi un concert du coup sans public aux Trois Baudets à Paris, qui est
oui.
en ligne aussi.
Oui, tout à fait, ouais.
Il était prévu avec concert au départ.
Exactement.
Avec concert avec public.
Oui, en live, quoi. Ouais, avec
ce
public,
concert,
ouais.
Oui.
Ouais, ouais. Ah, il oui. était prévu le 29 octobre, et il y a eu le confinement annoncé le 28. En fait, le confinement, il a dit même c'est vendredi. Et moi, mon concert, c'était vendredi. Donc, j'écoutais tout le truc, mais c'était vendredi à minuit ou vendredi à minuit du jeudi.
Ah oui.
C'était l'angoisse. Et donc, ouais, c'était horrible parce que ça faisait longtemps que je préparais ce concert. Enfin, longtemps, pas tant que ça, mais voilà.
Oui, parce
quoi.
Que la carrière de petite gueule
oui,
est
oui,
resserrée
oui, c'est
dans quand le
même
temps.
Très
quand même,
resserrée dans le temps. Mais c'était intensif, en tout cas. Et du coup, la oui. censeur émotionnelle a été quand même assez fort. Et du coup, ce qui est super, c'est que bah, le concert sera bien sûr reporté. Il va avoir lieu. Et les Trois Baudets ont proposé en fait à mon manager, Jean-Marc Sauvagnargues, qu'on fasse quand même 4 jours de résidence avec à la clé un concert filmé sans public d'une demi-heure. Donc c'était une aubaine incroyable parce que moi où j'en suis, du coup ça m'a permis d'avoir 4 jours de résidence dans ce lieu super avec une équipe technique super. On a passé 4 jours passionnants, on a fait la création lumière du spectacle, du coup on a répété la mise en scène, etc. avec donc toujours Jean-Marc et Nicolas Guillemot aussi, plus l'équipe du lieu. Et c'était vraiment 4 jours intensifs, passionnants, et avec en plus des images hyper belles tournées le jour du... le jour J, avec, ils ont eu une nuit pour faire le montage et le résultat, il est hyper beau. Moi, ça va me servir aussi pour démarcher. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'était étrange de se regarder en pyjama chez soi en même temps que tout le monde. C'est super bizarre parce que moi, je l'ai quand même fait comme un vrai live, hein, bien sûr. C'était un one shot, quoi. Et on en a même fait 2 parce que le matin, quand on a fait toute la version, c'était super. Et en fait, il y a eu un problème technique, donc on a dû tout refaire. Et du coup, il y en a même eu 2. Et c'était, mais c'était super comme journée. Et puis, c'était étonnant de voir après qu'il y a eu quand même pas mal de vues sur les réseaux sociaux. Ça a permis de continuer de faire grandir petite gueule, la croissance.
Oui, et puis de montrer du coup ce que tu es quand même capable de faire sur scène. Bon,
oui.
Il n'y avait pas de public, mais au moins ça te permet pour montrer aux professionnels,
oui,
pour
c'est ça.
Les
festivals,
futures scènes,
on sait jamais.
Ou,
ouais.
Voilà, ou même album.
Bah là, en plus, sans public, c'était particulier, mais quand je me suis dit de le vivre comme une sorte de répétition filmée, fait, du coup, le fait qu'il y ait ces silences à la fin de chaque chanson, comme je me disais que c'était une répétition, ça va, je le vivais pas trop mal.
Oui. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle des titres, parce que en plus de débouler sur le net, c'est qu'il y a déjà en fait de quoi faire un album, puisqu'il y a combien de titres là ?
Oui, il y a 16 titres.
Pas compté.
Il y a 16 titres, plus en fait, là je suis en train de faire aussi d'autres titres pour d'autres projets, alors soit des featuring avec d'autres artistes, soit d'avoir fait un morceau sur une compile, là une compile de Montreuil, j'ai fait un morceau qui va sortir sur cette compile, j'ai fait aussi 8 mesures pour un projet associatif, ça s'appelle 115 hip-hop d'urgence et c'est pour les sans-abri, et ça va être un album qui va sortir dans cette démarche, et donc fallait écrire 8 mesures, et il y a 115 rappeurs qui vont participer à cet album. Ça, c'est une super expérience aussi, ça. Donc du coup, voilà, ça fait 16 plus toutes ces petites expériences à côté qui sont hyper enrichissantes. Où du coup, là, il y a des sujets précis, des petites contraintes qui permettent de, bah, moi, me continuer d'apprendre à écrire aussi, quoi.
Donc, il y a déjà tous ces titres. Donc, moi, j'ai écouté sur SoundCloud, en fait, pour l'instant, hein, tes titres. Chacun a son univers propre. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, oui, des titres maintenant. On peut commencer par un titre assez court, mais très percutant et très dense en émotion, Ciel Rose.
Oui, oui, alors... Donc Ciel Rose, c'est le deuxième que j'ai écrit pendant le confinement. Et en fait, c'était un peu particulier parce que j'ai perdu ma grand-mère, moi, pendant le confinement. Elle est décédée du coronavirus. Et en fait, j'ai écrit cette musique. J'ai fait d'abord la musique et je me suis mise à écrire, donc comme d'habitude, avec mes petites feuilles A4 perforées grand carreau et mon critérium et mon casque. Et j'avais pas du tout l'intention de parler de ça. Je savais pas du tout de quoi j'allais parler. Puis c'était ça qui me venait. Mais au début, je voulais pas écrire là-dessus. Donc j'effaçais, je gommais. Puis j'essayais de partir ailleurs. Mais ça voulait pas. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis. Hein. Et puis j'ai commencé à écrire là-dessus. Et c'est rigolo parce que je pense pas que j'aurais parlé de... J'aurais pas fait cette musique, si j'avais fait la musique après avoir écrit le texte, j'aurais pas fait ça comme musique, je pense. Et en fait, c'est ça que je trouve beau, c'est les contrastes, parce que du coup, cette musique, elle est hyper violente, et ce que j'ai vécu aussi, finalement, et sans que ce soit larmoyant, dans « Ah, j'ai perdu ma grand-mère », enfin bon, j'avais pas du tout envie de tomber dans quelque chose de perso, comme ça, aussi, quoi, un peu impudique. Et là, du coup... Bah, ça parle pas, enfin, ça parle de ça, quoi, de perdre quelqu'un de cher et de tout ce par quoi on est traversé quand on perd quelqu'un comme ça. Et aussi de, bah, justement, Ciel Rose, le titre, c'est parce qu'en fait, ça c'est pas dans la chanson, mais juste avant que j'apprenne la mort de ma grand-mère, mon copain il m'a dit, oh, viens voir dans le salon. Et il y avait le ciel qui était sublime, qui était tout rose. Et juste après, mon frère m'a appelé pour m'annoncer la mort de ma grand-mère. Et du coup, j'ai fait ce lien en me disant, tiens, c'est marrant, le ciel, c'était elle, quoi. Et du coup, après, ça, dans la deuxième partie de la chanson, ça parle de ça, que j'ai ce tempérament, qui doit me venir un peu de mon père, d'ailleurs, d'embellir, en fait, les situations, de voir des signes partout pour pouvoir survivre à des drames, sûrement, enfin, et de se raccrocher à ça, en fait, et que d'embellir les choses pour se raconter une histoire qui va nous empêcher de déprimer, quoi. En gros, bon, voilà, c'est peut-être un peu long comme réponse.
Non, non, non. Justement, la chanson, c'est tellement court,
oui, c'est très court,
et dense que c'est bien que tu puisses nous expliquer un petit peu. Puis il y a un débit incroyable sur ce titre-là
oui,
aussi.
Oui, oui. Ça aussi, alors ça, c'était autre chose. C'était que j'avais un peu envie de... Comme c'était le début, j'avais un petit peu envie de... Je savais que j'avais cette technique vocale d'articulation et de rythme. Et du coup, j'avais envie qu'il y ait un petit truc pour être crédible, en fait. Pour qu'il y ait un truc de... Ah ouais, quand même voilà, en fait, j'avais envie de montrer ça, quoi. J'avais envie de me sentir légitime à faire ça, je pense.
Mais est-ce que tu connaissais le titre que Pomme a fait aussi pour sa grand-mère, où justement, on entend aussi un message vocal de sa grand-mère dans le titre ?
Ah non, pas du tout. Ah non, comment ça s'appelle ? Ah non, 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 je la connais pas.
Ça s'appelle Une Minute.
Ah ouais ? Ah bah non,
et
je la
fait,
connais pas.
Comme je l'ai faite en interview il y a quelques temps, quand j'ai entendu ta chanson, je me suis dit, ah, de nouveau une grand-mère et de nouveau une présence vocale dans le titre.
Oui, parce qu'elle chante à un moment. Oui, oui. Ah non, je la connaissais pas.
Voilà.
En plus, si je la connaissais, j'aurais pas osé le faire du coup. Parce que je me serais dit, bah non, elle l'a déjà fait.
Un petit
peu. Assez rigolo.
Donc aussi, ce qui m'a étonnée, c'est que tu réussis souvent à intégrer dans un petit titre de une, parfois moins d'une minute, hein, de 1 à 3 minutes, plusieurs dimensions, plusieurs perspectives, ce qui donne un relief assez particulier. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a joué, mais en fait, j'avais l'impression que c'était comme si tu voulais intégrer un peu de la richesse, de la complexité de la vie, du monde extérieur à l'intérieur de tes chansons, comme on avait tendance à le faire pendant le confinement, pas dans des chansons, mais en fait on se retrouvait entre quatre murs et on essayait de ramener le monde extérieur. Et en fait, ça m'a assez étonnée dans plusieurs de tes clips. Donc je pense par exemple à Miroir, Miroir, où on te voit devant un miroir dans une salle de bain, jouant le rôle d'une fille pour qui ça commence à marcher, puis bon, c'est par rapport aux réseaux sociaux, et on entend le son d'un public qui l'acclame dans la bande-son que tu as mise. En même temps, on te voit apparaître en incrustation sur un écran télé dans ta salle de bain, où tu joues aussi le rôle de l'animatrice télé. Il y a souvent plusieurs dimensions comme ça, dans « Moi, je crois aux fées », dans plusieurs titres.
Oui, c'est vrai. Ben, déjà, je pense que comme il y avait le confinement, ça se trouve, s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais appelé des copines pour jouer les autres rôles. Mais là, comme on peut les faire avec les moyens du bord, je me suis prise au jeu de me dire, j'ai qu'à tout faire. Et puis, c'est devenu un peu une signature et finalement un concept qu'on a trouvé intéressant avec mon copain. Parce qu'il y a même une fois où il aurait pu faire des trucs. Mais en fait, on se disait, non, c'est drôle de garder ce code... Mais ouais, c'est vrai, ouais, c'est rigolo ce truc de faire venir le monde extérieur à l'intérieur. J'avais pas vu ça, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Bah ouais, sûrement.
Et est-ce que tu pourrais nous en dire quelques lignes de ce titre Miroir, Miroir ?
Ouais, bien sûr, ouais. De ce petit passage. Alors, je me suis perdue, même pas par choix, prouver que j'existe, on s'en fout, quoi. L'ego persiste, mais je suis plus là, qu'est-ce que j'ai fait de moi? Ami virtuel, ce n'est pas ça, pas l'essentiel, excusez-moi, je me suis trompée, c'est creux tout ça, mais j'ai cru à quoi? Et après, il y a la voix de la télé, justement.
Oui.
Bah oui, parce que c'est sur ce besoin de reconnaissance que les réseaux sociaux nourrissent comme ça, et dont moi-même, je me suis fait avoir, évidemment, à chaque fois que je mets un clip, je suis là à regarder toutes les deux secondes comment ça évolue, bien sûr, les vues, les likes, les clips, les clics, les j'aime, les commentaires, les machins, de ce truc d'avoir envie d'être aimé, puis d'être reconnu, ouais, ce besoin de reconnaissance, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est hyper creux, d'ailleurs, là, ce qui m'est arrivé avec la chaîne YouTube, en un clin d'œil, tout disparaît. Et donc c'est marrant parce que ça tient à rien, ce monde virtuel, et surtout on n'en est pas maître, ça tient à eux, et ça c'est flippant un peu, quoi, ce truc où on se perd, quoi, on peut vraiment s'y perdre, et pourquoi on fait ça et dans quel but et qui on est et qu'est-ce que entre ce qu'on veut montrer de soi et qui on est vraiment, et
oui, et la phrase prouver que j'existe, on s'en fout, quoi. Je trouvais ça assez bien, ça résume assez bien la situation, quoi.
Oui, oui.
L'ego persiste, mais je suis plus là.
Oui, c'est ça, c'est parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il y a le reflet dans le miroir, mais moi, je suis plus en face du miroir. Et que du coup,
il y en a beaucoup qui s'y perdent. Hein.
Ah oui, oui, je connais quelques personnes qui sont vraiment uniquement, avec un masque, quoi. Et en fait, et ça, moi, j'ai bien aimé, justement, dans le confinement, j'ai trouvé qu'il y avait un... s'il peut y avoir quelque chose à tirer de ce confinement un peu positif, c'est quand même que ça a permis des fois, pour moi en tout cas, de se connecter un peu à l'essentiel, à se reconnecter un peu à soi et à l'essentiel. Moi qui suis quelqu'un d'un peu hyperactive à partir dans tous les sens, de me retrouver face à moi-même, et finalement qu'il en sorte tout ça, c'est intéressant, quoi. Ça me questionne un peu, quoi.
Il y a aussi le titre « Pourquoi ?» avec l'intégration d'extraits vidéo de cet homme qui dit des phrases en anglais que tu as sous-titré, que tu as intégré dans ton titre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce titre et sur qui est cet homme ?
Oui, bien sûr. Moi, c'est mon titre un peu phare, dans le sens où si j'ai commencé tout ce projet, je crois que c'était pour écrire cette chanson. Et du coup, c'est comme si un peu j'en avais écrit d'autres avant avant de m'attaquer à ce sujet qui me tenait à cœur, qui est encore une fois, d'être, comment c'est difficile d'être soi-même, en fait, d'être vrai, d'être authentique. Pourquoi c'est difficile, en fait, d'être authentique, d'être intègre. Et en fait, ce monsieur, il est dans un documentaire de Al Pacino, qui s'appelle Looking for Richards, qui est un documentaire sur Richard III de Shakespeare. Donc voilà, il y a encore les influences du théâtre et du cinéma et tout ça, du jeu d'acteur. Et il parle de ça, Enfin, lui, il dit autre chose, il parle de l'éducation. Et ça résonnait très fort avec mon envie de parler de ça, ce qu'il disait lui, ça, c'était complémentaire.
Et puis, il y a le titre « Concerto pour triangle ».
Oui.
Alors là aussi, un super texte et super clip, t'as été gâtée quand même.
Ah oui, là, on est plus de là, on est passé de 2 à 25 d'un coup.
J'aimerais bien que tu nous racontes comment ce titre est né. C'est drôle parce qu'il y a le fond et la forme à chaque fois. Quand on se penche vraiment sur le texte, on se rend compte qu'il y a vraiment du fond. Et puis, tu soignes la forme aussi. La forme est assez drôle et toujours avec dérision ou autodérision. Donc, comment est né ce titre et comment est né ce clip? Parce que le clip est assez étonnant aussi.
Alors, le titre, bah moi j'adore le triangle, j'en joue tout le temps, je joue du triangle, c'est un instrument qui a beaucoup de succès au Brésil. Je suis partie en voyage au Brésil et quand je jouais du triangle, vraiment c'était marrant parce que je me suis même fait interviewer là-bas parce que je jouais du triangle. Apparemment c'est assez fascinant, c'était rigolo ce que j'ai vécu là-bas. Et dans la musique brésilienne, j'ai appris à faire du triangle. Et ensuite, après, en voyage et tout ça, je l'avais tout le temps sur moi parce que c'est tout petit. Et je me suis rendu compte que d'en jouer sur d'autres styles de musique que la musique brésilienne, c'était super aussi. Et c'est Jean-Marc, mon manager, qui m'a dit « Tu devrais faire une chanson sur le triangle, avec du triangle, quoi. » Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Du coup, je l'ai fait. Et j'ai pris cet angle, en fait, de... Que ce soit un peu une personnification aussi, quoi, des gens qu'on voit pas, ou encore aussi par rapport à Petite Gueule, quoi, des petits, quoi, et qui est jaloux de la grande harpe, qui est hyper belle et qui se la pète.
Si tu veux nous lire le début, je pense que ça permettra à nos auditrices et auditeurs de comprendre de quoi on parle, en fait, du sujet.
Alors, il était une fois un triangle. Il attendait son moment, mais un jour, il en a eu marre d'attendre. Pourquoi je ferais que des tings serrés dans mon smoking et moi j'ai envie de surprendre? C'est vrai, on me sous-estime, on me colle au fond de la scène, j'ai envie qu'on m'entende. Personne ne sait qui je suis, tout le monde se fout de ma gueule, je décore en mode guirlande. Mais les guirlandes c'est beau, c'est ça qui donne du charme. Il est temps que je me défende, je suis petit mais je suis clinquant, etc. etc. Et après il fait une prise d'otage du chef d'orchestre et bon c'est un petit peu farfelu. Parce que c'est à la fois une prise d'otage, une comédie romantique et une fable dans la même chanson. Donc,
Voilà, c'est excellent, le texte est vraiment super bon. Et ce clip là,
j'ai rencontré suite à ça m'énerve Mathieu Brault, qui est le chef d'orchestre de l'ensemble des notes qui est dans le clip, qui en fait suite à ça m'énerve m'a proposé qu'on travaille ensemble parce que lui il a cet orchestre avec lequel il a envie de faire découvrir la musique classique à Montreuil dans des univers plus urbains, dans des milieux culturels et sociaux un peu ouverts aussi, d'ouvrir un peu les cases. Et il trouvait que ça pouvait être intéressant qu'on fasse quelque chose ensemble. Et moi, j'avais déjà écrit cette chanson, donc je lui ai dit j'avais en plus un morceau qui s'y prêtait complètement, quoi. Donc là, il a écouté le morceau, il était super partant, il a présenté mon travail à l'arrangeur, Grégoire Letouvet, qui a accepté de faire l'arrangement, parce que tout ça, tout ce qu'on a fait, c'était gratuit, hein. Personne n'est payé, on a tout fait ça avec les moyens du bord, c'est des copains, ou même pas forcément des copains, mais des gens qui ont accepté de faire ça comme ça, quoi. Donc le théâtre du Ranelagh a accepté de me prêter la salle, j'ai des amis choristes, qui font partie d'une chorale qui s'appelle La Norale, qui sont venus. Il fallait qu'on trouve un harpiste. Et comme par hasard, Grégoire Letouvet connaissait un harpiste comédien. Donc c'était vraiment incroyable. Il fallait qu'on trouve tout le matériel technique. On a un ami réalisateur qui s'est libéré pour pouvoir être là. Parce que c'est lui qui on a réalisé tous les trois avec toujours Nicolas et moi, mais là du coup ça se voit, c'est plus avec le téléphone, enfin il y a des parties avec le téléphone, il y a de la GoPro et il y a ces images à lui professionnelles, quoi. Et après nous on fait le montage avec Nicolas tous les deux, toujours on a gardé notre petit rituel,
équipe,
voilà notre équipe maison, mais voilà, il y a eu tout cet engouement et voilà, on a tourné en une seule journée, on a fait l'enregistrement le matin et le tournage l'après-midi. Là, on est d'ailleurs en train de faire un making-of de cette journée qui va durer 15 minutes, qu'on va sortir bientôt. Parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de montrer aussi les coulisses de ce clip. Parce que c'était tellement fou, on était tellement heureux de vivre ça. Même moi,
mais surtout que comme les orchestres ne peuvent plus jouer depuis
c'est
plusieurs
ça, ils étaient
mois.
Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils étaient disponibles. En fait, ils devaient jouer, eux, à cette date-là. Et comme ils étaient tous disponibles, Mathieu m'a dit « Faudrait le faire ce jour-là, quoi. » Donc on a tout mis en œuvre pour que ce soit possible, en gros, quoi. Et puis, on a échangé avant, on a préparé cette journée avec Mathieu, avec Grégoire qui m'a envoyé le conducteur. C'était une partition magnifique avec tout d'un coup tout l'orchestre. Moi, j'étais hyper heureuse de refaire de la musique classique, de parler avec lui de ça, d'échanger sur la telle mesure, ça serait super que ça, on le mette sur le et du 2. Là, faudrait que ce soit telle note. Là, faudrait raconter ça, que là, ça soit moche parce que, en fait, je leur dis de se taire et qu'ils soient surpris. Donc, fallait amener la théâtralité dans la musique. Et c'était super intéressant comme travail. Et après, le montage, alors on avait plein de rush, on savait plus par où prendre le truc. Et puis, on a réussi, quoi. Et là, on est hyper content du résultat. On pensait pas que ça allait faire autant de vues. On s'était même préparé, on s'était dit, bon, ça va pas faire 100 000 vues comme ça m'énerve, mais ça veut rien dire. Et puis, en fait, c'est monté en flèche, ça a même dépassé. On est à 135 000 vues, on est hyper heureux tous, quoi.
Parce que c'est pareil, il y a de la surprise, il y a de l'humour, c'est bon musicalement, le texte est super drôle. Pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, je précise que je vais mettre les liens. Vous pouvez regarder, que vous soyez sur le site So Sweet Planet ou sur une application de podcast, vous déroulez le texte et à la fin du petit texte de présentation de ce podcast, vous aurez les liens pour accéder à tous les titres et clips dont nous parlons et aussi à la page Facebook de Petite Gueule. Et puis alors j'aimerais quand même qu'on parle d'un titre moi qui m'a beaucoup touchée, qui est Moi je crois aux fées.
Oui.
Où là aussi le titre, le texte et le clip sont vraiment séduisants, quoi. Donc est-ce que tu peux peut-être nous choisir un petit passage aussi pour qu'on sache aussi de quoi on parle.
D'accord. Bon, je vais commencer par le début par exemple. Moi, je crois aux fées, je crois même qu'on en rencontre plusieurs. Je crois que notre route, c'est une piste de dés. Je crois que l'illusion, elle est ailleurs. Je crois qu'on peut même tous en être une, être la fée de quelqu'un ou de quelqu'une. Faut juste les voir, c'est ça qui compte. Ce qui fait ce qu'on est, c'est les rencontres. Et ce qui fait ce qu'on fait, ce qui fait ce qu'on dit, ce qui fait ce qu'on pense, ce qui fait ce qu'on rit. Parfois, quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a croisé, là, juste une fois, qui nous a marqué pour la vie, qui le sait pas, qui fait sa vie. C'est ça, une fée. Elle est juste passée, ça suffit. Bon, voilà. Ça, c'est les deux premiers couplets, par exemple.
Et j'aime bien aussi le passage où tu dis, je crois que c'est vers la fin, ce qui nous caractérise, je crois que c'est comment on voit.
Oui.
Parce qu'en fait, tu parles du fait que les fées, tu parlais des signes tout à l'heure, que tu étais sensible aux signes, on est un peu aussi dans cet univers, mais tu parles dans la chanson du fait que finalement la réalité, elle a aussi la couleur de... On a une responsabilité de la façon dont on la voit. Je peux dire ça comme ça ?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je pense que ça dépend de la perception des choses, ce qu'on voit dans la vie et ce qui nous arrive aussi d'ailleurs. Je pense que c'est une manière qu'on a de voir les choses. Il y a un copain qui vient de m'appeler tout à l'heure, il m'a dit une phrase, il m'a dit « La synchronicité et la poésie, c'est la même chose. » Il m'a dit qu'il avait lu ça quelque part. Et du coup, j'ai noté la phrase parce que je trouve que c'est... En fait, ça répond un peu à ce qu'on se dit là, j'ai l'impression, quoi. En fait, c'est la poésie de la vie aussi, c'est ça. Et c'est toutes ces petites synchronicités de la vie qui font qu'on rencontre quelqu'un, le hasard, la chance et tout ça. Ben, que la chance, en fait, ça se... faut la vouloir. Ben, il dit ça dans La fille sur le pont. Il dit, faut la vouloir, la chance, faut la provoquer, faut la... Alors bon, je sais pas si c'est vrai, parce que malheureusement, je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance. Du coup, est-ce que c'est un peu grâce à moi ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'y crois. Je crois pas en Dieu, mais je crois en ça, en la chance, en relations humaines, que les choses arrivent pas par hasard, que... Ou en tout cas que si ça arrive par hasard, ben que c'est hyper magique, que c'est beau, quoi. Et que justement, quand on est influencé dans la vie par, que ce soit, la famille, nos amis, les rencontres fortuites, quelqu'un qu'on croise pas longtemps, que tout ça, c'est beau, quoi.
Et alors ce clip ?
Et ben alors là, c'était le premier ou le deuxième ? Non, le deuxième, on pouvait déconfiner, donc là, il est dans la cour, sur un petit banc, et... c'est pareil, il y avait ce truc de faire tous les personnages et puis techniquement on s'est amusé à faire je sais plus comment ça s'appelle, l'effet, c'est du, faut rogner d'un côté et puis après adoucir, et ce qui fait qu'il y a deux images superposées, donc fallait pas toucher au cadre, fallait que le cadre il bouge pas, et moi je changeais de costume et d'emplacement pour pouvoir être par exemple à deux endroits au même moment la même personne, quoi. Et pour que ce soit aussi un peu magique, mais ça, je sais pas du tout. quand on fait des clips comme ça, j'ai des idées dans ma tête, ça fuse dans tous les sens. Je m'en rends pas trop compte de ce qui est réfléchi, prémédité ou pas. Après, au montage, des fois, on a des surprises, c'est des accidents. On fait « Ah bah ça, c'est super !» Des fois, on avait prévu de faire un truc, en fait, c'est nul. C'est ça, c'est assez amusant, le montage. C'est devenu un peu ma nouvelle passion dans la vie.
Ah, d'accord. Alors, peut-être pour terminer, mélomaniaque. Là aussi, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots.
D'accord. Pourquoi cette note et pas celle-là? Pourquoi cette note, elle me fait ça? Pourquoi celle-là avec celle-là? Harmonie, ça veut dire ça, je crois. C'est une histoire de relation, des notes qui se parlent et c'est selon. Des notes qui se croisent, qui se disent, qui se lient, qui se relationnent, ça semble s'oublie. Il y a des notes qu'on préfère se faire rencontrer. Pour certains mecs qui les font, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est une histoire de vibration, une envie de serrer tout, une pulsation qui bat. Heureusement que ça m'arrête. J'ai la peau comme paroi, sauf au niveau des yeux. Des fois, ça coule un peu. La façon qu'il y a une note d'en rencontrer une autre ou d'attendre un peu, etc., etc.
Tu peux aller juste au bout de ce petit passage?
Oui, d'accord. La façon qu'on a une note de rencontrer une autre ou d'attendre un peu, l'écart entre les deux, les silences en plein milieu. Les silences en plein milieu. Tu mesures pas comme il résonne, la gaieté triste, comme j'en frissonne. Je parle pas de jouer, je parle d'écouter. Ah oui, voilà, c'est fini.
Voilà, donc mélomaniaque, c'est un peu ton rapport à la musique?
Oui, complètement, ouais. Oui, je pouvais pas ne pas faire une chanson sur la musique qui est vraiment un peu le vrai moteur de tout ça, quoi.
Oui, c'est vraiment là, on sent ta passion et puis le mystère aussi.
Oui, de ce que ça procure. C'est vrai que pour moi, il y a un pouvoir magique là-dedans, quoi. C'est parce que j'ai essayé de... En fait, quand j'ai voulu commencer à écrire l'année dernière déjà... je voulais écrire en fait une pièce de théâtre sur la relation entre la musique et le cerveau. Et pourquoi, vraiment, pourquoi ça nous fait ça la musique? Pourquoi des fois on va pleurer avec une note? Pourquoi ça fait ça? Et qu'est-ce qui fait que ça procure autant de sensations la musique? Et même Alzheimer, Parkinson, il y a des gens, ils se souviennent de rien, mais ils se souviennent de la première chanson qu'ils ont écoutée. Enfin, c'est assez incroyable le pouvoir qu'a la musique. Et voilà, et du coup, ça m'intrigue tellement que j'ai voulu en faire une chanson, quoi, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant, en fait. La musique a des vertus qui sont infinies, quoi.
Oui. Voilà, petite gueule. Bah, écoute, vraiment, j'étais ravie de faire ta connaissance plus amplement et de te découvrir et de découvrir tout cet univers qui est le tien et que tu nous communiques si bien dans tous ces titres. Donc, on peut déjà écouter et on peut voir tous ces petits clips que vous avez superbement réalisés. On a bien compris qu'au niveau concert, comme tout le monde, ça a été un petit peu bousculé et puis ça a été interrompu. Donc, vous étiez sur la lancée, évidemment, maintenant, rendez-vous, maison de disques professionnels, tourneurs, tout ça. C'est pas encore signé, mais je te souhaite, je croise les doigts pour que ça le soit, mais ça, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que ça va l'être, mais surtout pour que ça le soit avec les bonnes personnes qui pourront à la fois t'épauler et respecter ce que tu es et ce que tu fais. C'est le rôle d'une bonne maison de disques, donc je te souhaite de rencontrer des gens de valeur qui pourront t'aider à t'accompagner pour faire connaître ce travail maintenant encore au plus grand nombre, et puis j'espère pouvoir tourner comme tous les artistes, hein, vraiment du spectacle vivant, qui sont bloqués en ce moment. Donc je te souhaite tout ça, et puis tout ce que tu peux souhaiter d'autre maintenant, tout ce que tu peux souhaiter d'autre.
Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir aussi pour moi de te rencontrer et cette interview. Vraiment, merci. C'est très, très émouvant pour moi.
Puis j'espère qu'on se retrouvera pour ton premier, deuxième, troisième, quatrième album ensuite, et que surtout qu'on sera sorti de cette pandémie.
Oui,
ouais,
c'est ça.
Voilà.
Autour d'un verre,
voilà.
En vrai.
Oui, voilà, c'est ça.
J'espère aussi.
Très bonne continuation à toi et bravo encore. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, www.radiocristal.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-Suite Planète mis en ligne. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.